Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Alley-Oop 360 présentée sur les ondes de la radio sportive BPM Sport à Montréal, un peu partout au Québec, également disponible en version podcast. Donc, à tout le monde qui nous écoute, ben, bienvenue. Merci d'être là. Merci de nous faire confiance pour vous fournir ce qui se passe dans le monde du basketball, que ce soit NBA au Québec ou encore dans les rangs universitaires. C'est le début du March Madness. C'est très, très cool comme période. J'ai un défaut d'avoir un meilleur adjectif. Très, très cool. C'est très, très excitant. C'est très, très enivrant. On s'emporte. On aime ça. Suivre le March Madness lorsque ça commence. Mais également, on va parler de NBA. On va se pencher sur la conférence de l'Ouest. Donc, avec Charles Dubé-Bret, ça va être notre premier bloc. Les premières équipes, il y a des histoires intéressantes. Premières équipes au classement, là, donc les Nuggets, les Grizzlies, les Kings. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? On va décortiquer ça dans le premier bloc. Par la suite, David Haussmann, notre spécialiste de basket féminin, va venir faire un tour pour nous parler du March Madness féminin. Parce que, ben oui, aussi, il y a le tournoi des femmes qu'on a tendance à oublier parce que le tournoi des hommes est si spectaculaire et on le met un peu au second plan. Mais non, c'est important d'en parler, puis c'est important d'analyser ce qui se passe de ce côté-là aussi. Et puis, ben, on conclut justement avec le tournoi masculin, analyse avec Manuel Villeneuve, qui est dans la famille d'Alley-Oop depuis un long moment et qui travaille maintenant chez RDS. Donc, Charles Dubé-Bret est avec nous pour commencer. Ce sera le seul segment NBA aujourd'hui. Habituellement, c'est en majorité. Aujourd'hui, c'est différent pendant le mois de mars. Comment vas-tu, Charles?
Ça va très bien, toi-même?
Oui, ça va super bien. Écoute, je carbure au upset en ce moment. J'aime ça regarder ça. Même si le premier match a fait que mon bracket a été erroné dès le début, donc j'ai perdu ma chance.
C'est toujours ça, mais regarde, si tu veux, je te donne en 30 secondes ma théorie quand tu fais ton bracket.
Oui, vas-y.
Déjà, tu ne mets pas d'upset parce que prévoir des upsets qui finalement n'arrivent pas, souvent, c'est que tu vas faire tomber une équipe qui en réalité est plus forte puis se rend un peu loin. Donc, c'est bien le fun de prédire un upset, mais c'est assez rare qu'on y arrive ou qu'on prédit les bons upsets, même si on sait qu'il va y en avoir. Donc, je pense que la façon d'avoir le meilleur bracket possible, c'est d'à peu près de mettre tous les favoris jusqu'au Final Four, puis après ça, de choisir ton numéro 1. C'est quand même ça qui a le plus de chances de fonctionner. Je ne suis pas en train de dire que ça fonctionne, mais je pense que ça augmente tes chances. Ma deuxième chose, c'est que moi, historiquement, j'ai toujours, si tu vas trouver ça drôle, je n'aime pas les upsets parce que les upsets nous privent souvent de match-up de poids lourd. Tu sais, les heavyweight match-ups, on les perd souvent dans le tournoi NCAA à cause justement des upsets. Fait que tu sais, je remonte un peu loin, là, tu sais, ça va même probablement trop loin pour plusieurs de nos auditeurs, mais tu sais, je me rappelle de l'épopée de George Mason qui s'était rendu au Final Four, si ma mémoire est bonne, je pense que c'était en 2006. C'était excitant de voir George Mason, mais rendu au Final Four, George Mason s'est fait taper alors que UConn était vraiment l'équipe qu'on voulait voir à ce moment-là. Je pense que c'était un match-up. Je ne sais pas si c'était UConn-Floride ou UConn-UCLA, là, ma mémoire me fait défaut, mais qu'on voulait absolument voir. Puis parce que UConn a perdu dans un upset contre George Mason, ben le Final Four a été plate après. Puis il y a plein d'exemples comme ça qui arrivent à travers les années. C'est que les équipes qui sont sous-côté ou qu'on appelle les underdogs, là, qui sont, disons, un peu évaluées comme étant un peu plus faibles, elles ont souvent les ressources pour faire un upset, mais à un moment donné, quand ça s'arrête ou quand la bonne vieille variance des tirs réussis, ratés rentre là-dedans, puis que là, ils n'ont pas autant de réussite le match suivant, ben ils n'ont pas les moyens, souvent physiques, athlétiques, pour jouer contre les autres grosses équipes. Donc, c'est pour ça que je suis un peu un anti-upset. Ce n'est pas parce que je ne suis pas sympathique à la cause de ces équipes-là, c'est pas du tout ça. C'est plus le fait que j'aime voir les gros match-ups entre les poids lourds de la NCAA. Ça m'excite plus de voir, comme l'année passée, North Carolina contre Duke, que de voir des upsets puis voir East Tennessee State affronter George Mason, tu sais, sur le même plancher. Donc voilà ma théorie sur les upsets. Je permets à tous nos auditeurs et à toi d'être en total désaccord avec moi là-dessus. Mais c'est mon appréciation sur ces situations-là dans le tournoi NCAA.
Je vais répondre deux choses. Premièrement, tu avais raison, c'est bien en 2006. Puis je suis allé regarder Donc, c'était LSU contre UCLA. UCLA a remporté, est allé en finale. Florida a gagné contre George Mason et a finalement été champion national. Donc, en 2006.
On avait été privé de Florida-UConn, c'est ça. Et parce que Florida a gagné aussi le championnat national l'année d'après avec Joakim Noah, Al Horford, Corey Brewer, cette équipe-là. Puis LSU, c'était l'équipe de Big Baby Davis. Puis de, donc, il y avait des joueurs intéressants dans ce tournoi-là. Mais je me rappelle que l'équipe qui était vraiment à surveiller, qui était classée numéro un de mémoire pendant la grosse majorité de l'année, c'était la puissance de UConn et puis on a raté le duel UConn-Florida à cause de George Mason puis on a eu un Final Four beaucoup moins intéressant.
La deuxième chose que je voulais te répondre, c'est te connaissant puis c'est, tu sais, des fois on se parle avant l'émission puis on se dit certaines choses. Là, je le savais pas que tu allais me dire ça puis, mais ça m'étonne pas. Je suis comme, on dirait, je suis pas surpris puis je suis comme, wow, Charles qui veut le meilleur basket possible. C'est
ben
comme,
oui.
OK, ouais, c'est cohérent, ça a du sens. Alors,
non,
alors que tu sais, c'est comme un trademark.
Imagine dans les playoffs de cette année, je ne sais pas moi, les Wizards finissent 8e, puis ils éliminent les Bucks en première ronde, puis il y a un autre upset qui arrivait. Ça a beaucoup moins de chances d'arriver en NBA, bien entendu, parce que c'est des 4 de 7. Mais tu sais, t'imagines.
Ils se rendent comme en finale de conférence.
En finale de conférence, au lieu d'avoir les Celtics contre les Bucks ou les Sixers, Embiid contre Antetokounmpo, on se retrouvait avec les Wizards contre les Nets, avec un duel entre Bradley Beal et Mikal Bridges. Tu sais, je veux dire, pour moi,
ouais,
ça serait beaucoup moins
intéressant. C'est un
intéressant.
Match de play-in, ça. C'est...
Ben, c'est ça. Fait que dans NBA, heureusement, c'est des 4 de 7, donc ces choses-là arrivent très peu. Et c'est pas mal plus intéressant pour moi d'avoir dans les années 80 des duels Magic Johnson contre Larry Bird, ou si on avait eu du Kobe contre LeBron, ou LeBron contre Steph Curry, comme on a eu toutes les années 2010. C'est pour moi que les meilleurs s'affrontent, puis qu'on règle les débats, puis qu'on voit des matchs dont on se souvient 20 ans plus tard, pas des matchs qui ont fini par 25, puis qu'on a oublié parce qu'il y avait une équipe trop faible. T'sais. Mais bon, comme je dis, c'est pas. Une opinion qui est nécessairement partageable et partagée, mais c'est la mienne et ça me faisait plaisir d'en parler à Aller au 360 aujourd'hui.
Voilà, vous l'avez, l'homme qui déteste le plus les upsets NCAA parmi la communauté de partisans de basketball. on vous invitera à faire vos commentaires après l'émission si ça vous tente. Bon, on a de la NBA quand même sur la table, hein, Charles? Donc, ce qui se déroule, c'est intéressant au sommet de la conférence de l'Ouest. On a les respectivement, donc premier, deuxième, troisième, les Nuggets, les Kings et les Grizzlies. T'as les Nuggets, il y a quelques semaines, tu les avais mentionnés comme seul potentiel vainqueur de la conférence de l'Ouest. Mais là, tu es allé les voir donc à Toronto, un match où ils visitaient les Raptors. Et puis, ton opinion s'est peut-être un peu modifiée là, par rapport à leur capacité à remporter un championnat.
Oui, c'est pas modifié dans le sens où je pense qu'ils peuvent aller en finale. Je pense qu'ils sont probablement la meilleure équipe de l'Ouest. Bon, comme je disais, je mets un petit bémol parce que les Suns, avec l'addition de Durant, changent potentiellement cette équation-là, s'ils sont en santé, hein, parce que ça va être le gros problème des Suns cette année et dans le futur, c'est que Chris Paul, Kevin Durant, vu leur âge, vu leur historique des dernières saisons, c'est des joueurs qui se blessent. Booker a eu des blessures aussi cette année, donc on a tellement de joueurs qui sont fragiles qu'on ne sait pas quelle équipe des Suns on va voir en série. Après, si tout le monde est en santé, sur papier, je pense que c'est la meilleure équipe de l'Ouest. Mais autrement, l'équipe qui offre probablement le plus de garanties, c'est les Nuggets de Denver. Je ne veux pas être prisonnier du moment quand je suis allé les voir contre les Raptors. Les Raptors ont aussi eu le meilleur quart de leur histoire au premier quart en marquant 49 points.
Wow.
Mais disons que j'ai vu trois choses des Nuggets que je n'ai pas beaucoup aimées. Et je te dis ça, moi, je les aime beaucoup, les Nuggets, à la base. J'aime beaucoup regarder Jokic. J'aime beaucoup Michael Malone comme entraîneur. En plus, j'ai des amis dans l'organisation. T'sais, c'est une franchise que j'aime parce qu'en plus, j'aime comment ils se sont construits. Je trouve qu'ils ont eu du pif dans les repêchages. C'est Jokic en deuxième ronde, mais le repêchage de Jamal Murray, pendant que personne n'osait d'avoir repêché Michael Porter, tout le monde avait peur à cause de sa santé. L'échange d'Aaron Gordon, j'ai trouvé ça excellent. D'aller chercher Bruce Brown, j'ai trouvé ça excellent aussi. Donc, je trouve que c'est une équipe qui, sans être une franchise glamour, a construit son équipe de la bonne façon, a bien travaillé, a de la stabilité. Et ça, c'est intéressant dans le basket d'aujourd'hui. Cela étant dit, comme je te dis, je suis un peu vendu à leur cause. Puis, en les regardant jouer, je me dis déjà de un, on sait que le plus gros problème de cette équipe-là, c'est la défensive. Puis, ça s'est vu dans ce match-là.
Ouais.
49 points.
Exact. Quand tu permets 49 points en un quart, à un moment donné...
Oui, puis bon, on peut comprendre, ça arrive une fois, c'est pas la fin du monde. Mais il reste que c'est pas une équipe qui est bien cotée défensivement au jour d'aujourd'hui. Puis pour moi, c'est la façon aussi, tu sais, c'est pas juste les schémas, mais c'est le niveau d'effort général, à part Aaron Gordon puis Kentavious Caldwell-Pope. On sait qu'Jokic n'est pas un excellent défenseur. C'est un excellent rebondeur défensif. Il est probablement, au final, un peu meilleur que sa réputation le dit, mais il reste que c'est pas un joueur qui joue fort défensivement.
Ouais.
Michael Porter est meilleur qu'il était, mais ça reste pas un grand défenseur non plus. Même chose pour Jamal Murray. Ce qui fait qu'on a la 16e meilleure défense de la NBA, puis c'est rare de voir une équipe qui est classée aussi bas défensivement gagner un championnat. Et comme je dis, c'est surtout la manière, l'intensité qui était dégagée par les Nuggets. Maintenant, cela étant dit, bon, ils ont gagné hier, ils ont eu une mauvaise séquence, ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise semaine. Ils ont perdu 4 matchs de suite. C'était pas joli pendant ces matchs-là, parce que c'était pas contre des gros adversaires. Il y avait les Spurs, il y avait, si ma mémoire est bonne, ils ont perdu à domicile contre les Bulls aussi. Donc, bon, c'était pas non plus des belles défaites. Peut-être que ça se replacera, il reste encore une douzaine de matchs pour eux, mais disons que ça m'a pas rassuré sur les Nuggets, pour la raison que j'ai dit, la défense. La deuxième raison, c'est Jamal Murray me paraît pas être le Jamal Murray qu'on a vu dans la bulle. Je sais pas si c'est dû à son genou, mais la balle colle un peu trop dans ses mains. Pas beaucoup de lancers de qualité pour Jamal Murray. Tout est difficile.
Okay.
Il y a un énorme talent, il y a une capacité à mettre des lancers très difficiles aussi, ça faut lui donner, mais je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux gagner 16 matchs de séries éliminatoires en prenant les lancers difficiles qu'il prend. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième, c'est le manque de profondeur de leur banc. Je pense que sur une série, ce n'est pas la fin du monde, mais sur 4 séries, Bruce Brown est excellent comme 6e homme, mais le 7e homme, c'est qui en ce moment? La réponse, c'est Christian Braun. Brown, je ne sais pas comment on doit prononcer son nom, mais Christian Brown comme 7e, c'est à peu près ça qu'ils ont. Jeff Green, qui n'est pas jeune. Les additions, il y a un mois, de Reggie Jackson et de Thomas Bryan, c'est pas très concluant jusqu'à maintenant. Ils ont une douzaine de matchs pour essayer de régler ça, mais pas beaucoup de profondeur de banc, pas beaucoup de défense. Et est-ce que Jamal Murray est un numéro 2 assez bon, un lieutenant assez bon pour épauler Jokic dans sa quête de championnat? J'en suis pas convaincu. Et on sait pas si Jokic peut gagner un championnat lui tout seul. Ça aussi, c'est une question. Donc, moi, j'aurais tendance à croire que Jokic est assez bon pour gagner un championnat. Je ne sais pas s'il peut le faire avec Jamal Murray. T'sais, je serais plus confiant si son numéro 2 était peut-être un profil James Harden ou LeBron James.
Oui, exact. Jamal Murray, ce serait sur une équipe de championnat, à mes yeux, c'est un numéro 3.
Probablement. T'es extraordinaire si Jamal Murray est ton numéro 3.
Oui,
Est-ce que c'est ton numéro 2? T'sais, je serais un peu plus rassuré. Puis là, j'ai nommé des joueurs. Peut-être que je n'ai pas choisi les bons exemples, mais je les choisissais vite là, en sortant de ma tête. Mais tu sais, des gens de Donovan Mitchell. Je ne suis pas convaincu que Damian Lillard peut gagner un championnat en étant le meilleur joueur d'une équipe. J'adore Damian Lillard, mais c'est la réalité. Par contre, si Damian Lillard était celui qui épaule Nikola Jokic, là, je serais confiant envers cette équipe-là.
Ah oui.
Mais
oui.
Je trouve que Jamal Murray, il est peut-être une coche en dessous. Puis on se demandait s'il allait se développer vers ça, parce que sa tangente de carrière...
Puis finalement, c'est comme pas arrivé.
Ben il a eu sa blessure au genou. Puis peut-être que l'année prochaine, ça va être mieux. Je veux dire, je n'abandonne pas complètement. Puis encore une fois, je nuance mes propos. Là, Jamal Murray, je trouve que c'est un très, très bon joueur de basket. C'est juste que là, je regarde ça à travers une lentille qui dit là, gagner un championnat NBA. Pas être une équipe de 50 ou 55 victoires, parce que ça, clairement, il peut être le numéro 2 d'une équipe de 55 victoires. Mais tu sais, ça, j'ai envie de te dire, CJ McCollum, à l'époque, était le numéro 2 d'une équipe qui gagnait 50 matchs à Portland, puis c'était pas une équipe qui pouvait gagner le championnat non plus. J'ai mes doutes sur Denver, même si je pense qu'ils peuvent atteindre une finale, mais de ce que j'ai vu de mes yeux, je peux difficilement croire que cette équipe-là battrait les Bucks, les Celtics ou les Sixers en finale.
Oui, puis c'est fou que tu mentionnes CJ McCollum, parce que je me rappelle que dans un autre épisode, quand il était parti chez les Pelicans, on s'est dit « OK, là, il va être un numéro 3, puis là, il va être bien placé. » Puis moi, je le compare un peu à Jamal Murray en termes de calibre de jeu. Donc,
exactement.
Bon, bref, on avait une bonne comparaison. Écoute, Charles, on a les Kings, les Grizzlies aussi, dont on voulait parler. Commençons par les Kings, hein, ils sont plus haut au classement. C'est intéressant ce qui se passe à Sacramento. On ne s'attendait pas à ce que... une formation menée par un Sabonis et un Fox se rendent deuxième échelon de l'Ouest, en tout cas pas moi. Et puis là, pour le moment, 42 victoires, 27 défaites. Ils vont briser la plus longue série de sans faire les séries pour une franchise de la NBA. Donc ça c'est quand même assez remarquable. Qu'est-ce que tu penses des Kings cette saison? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire durant le printemps, en fait, là?
Ben déjà, les Kings, depuis le 10 janvier, c'est 22 victoires, 9 défaites. Donc, depuis plus de deux mois, c'est une équipe qui gagne à un rythme assez effréné, hein, 70% de ses matchs. C'est une équipe qui est aussi assez intrigante parce qu'au-delà de la magnifique saison que Sabonis et que De'Aaron Fox sont en train de faire, en plus avec des joueurs qui complètent bien autour les Malik Monk, Harrison Barnes de ce monde, mais... On a rarement vu historiquement une équipe aussi faible défensivement aller loin en série. Ils sont 26e, donc ils ont l'une des 5 pires défenses de la NBA. Mais ils sont, ni plus ni moins, la meilleure attaque de la Ligue cette année. Et il faudrait que je vérifie, mais récemment, ils étaient assez haut dans leur cote offensive pour être la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue. Donc, c'est vraiment un phénomène offensif. Ils sont à 119,2 points par 100 possessions, ce qui est exceptionnel.
Oui, oui,
donc,
oui.
Une équipe qui est aussi forte en attaque et aussi faible en défense, qu'est-ce que ça peut faire en série? Ça va être extrêmement intéressant.
C'est inconstant.
C'est inconstant. Mais les Kings, déjà, deux choses intéressantes aussi sur eux. C'est la meilleure équipe de la conférence de l'Ouest sur la route. Parce qu'on a tendance à croire que c'est des petits genoux qui viennent d'arriver dans le portrait, ils n'ont pas fait les séries depuis 16 ans. Mais ce qui est dur dans la NBA, c'est de gagner sur la route. Et cette équipe-là, 21 victoires cette année, 21-13. Il n'y a personne d'autre dans l'Ouest qui en a plus que 18. 18, c'est les deuxièmes, c'est les Clippers qui jouent à peine pour 500. Les Nuggets jouent pour 500. Les Kings sont 8 matchs en haut de 500 sur la route. Donc, les Kings sont très solides en ce moment, mais est-ce que leur défense va leur permettre d'aller loin? Il y a très, très peu de précédents dans l'histoire de la Ligue d'équipes faibles défensivement qui gagnent des séries de playoffs. Bon, tu as eu un peu la fin des Cavaliers de LeBron James, là, qui était vraiment une puissance offensive, mais vraiment pas bon en défense. Mais bon, il y avait quand même LeBron James dans cette équipe-là. Donc, ça va être intriguant de voir, est-ce que les Kings peuvent poursuivre leur route en séries éliminatoires, parce que je pense qu'il y a un chemin pour cette équipe-là d'aller jusqu'en finale de conférence, mais il y a aussi un chemin pour perdre en première ronde, tu sais. Donc, ça va être très intriguant de voir comment ils peuvent aller là, mais ils sont vraiment constants depuis deux mois. Chapeau à Mike Brown, chapeau à Sabonis et à Fox pour le beau travail qui a été fait avec Sacramento cette saison, puis ça augure bien pour le futur aussi.
Un petit mot sur les Grizzlies de Memphis avant d'aller à la pause. Bon, si vous suivez un minimum l'actualité NBA, vous connaissez la saga Ja Morant, donc exhiber une arme à feu dans un club après un match sur la route, donc le 4 mars, donc ça va faire deux semaines. Suspension des Grizzlies, programme de réhabilitation en Floride. Là, bon, les Grizzlies modifient un peu leur politique de déplacement. Ils resteront plus le soir même dormir à un autre endroit. Ils vont revenir en avion. Bon, pour éviter les gaffes, on a compris tout ça. À quel point est-ce que, bon, pour une troisième équipe quand même dans la conférence, toute cette situation qui entoure Ja Morant, qui est leur joueur vedette, peut leur nuire et est-ce qu'ils vont y résister?
La question, c'est est-ce qu'ils vont y résister cette année? Je ne suis pas sûr que ça va avoir un impact si négatif que ça sur leur futur. Ça reste à voir. Parce qu'ils sont jeunes. Ja Morant a 23 ans. Bien sûr, comme tout le monde, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu récemment de Ja Morant à l'extérieur du terrain. Maintenant, est-ce que c'est des erreurs de jeunesse qu'il peut corriger? Regarde, on va donner la chance au coureur parce que c'est un joueur excitant sur le terrain. Puis peut-être qu'il va corriger son comportement, puis on verra qu'est-ce que l'avenir nous dit dans son cas. Donc, on verra. Peut-être que ça va faire grandir et prendre de la maturité à cette équipe-là qui est extrêmement jeune. Maintenant, ça peut faire dérailler cette saison-ci. On a vu déjà que leur deuxième place a été capturée par les Kings maintenant. Et bon, comme Ja Morant va probablement rater encore là, au moins deux ou trois matchs, je pense qu'il est éligible à revenir à partir du match contre les Mavericks, si ma mémoire est bonne. Ce qui veut dire que peut-être que ça va faire perdre assez de matchs aux Grizzlies pour justement tomber peut-être un peu plus bas, ne pas avoir l'avantage du terrain contre les Kings si jamais on gagne la première ronde et puis qu'après ça, il faut se déplacer à Sacramento. On sait Sacramento, ils ont une foule à domicile qui est survoltée.
The Beam!
Il n'a pas fait les séries depuis 16 ans aussi. Donc, oui, ça peut faire dérailler cette saison. C'est combiné aussi à une blessure importante, celle de Brandon Clark jusqu'à la fin de l'année. C'est pas impossible qu'on ne revoie pas Steven Adams non plus. Donc, c'est combiné à des blessures. Disons que la tendance actuelle n'est peut-être pas très positive pour les Grizzlies. Peut-être qu'on peut quand même gagner une ronde du côté de Memphis, mais disons que ça serait plus surprenant qu'on les voit peut-être en finale de conférence. Et on est peut-être plus vulnérable qu'on croyait à des équipes qui vont peut-être finir un peu plus beau au classement, comme les Lakers, les Clippers, les Mavericks, tu sais, qui pourraient se présenter dans une série de première ronde. Une équipe qui a Doncic et Irving, peut-être peut battre des Grizzlies qui sont chambranlants. Après, je pense que les Grizzlies solides les auraient battus. Tu sais. Donc, on va voir ce que ça donne en série cette année, mais je pense que ça peut leur faire mal. Mais je ne sais pas si ça aura un impact réel sur la saison prochaine et la suite des choses pour les Grizzlies.
Comme toujours, Charles Dubébret, merci beaucoup pour tes analyses et puis je te souhaite un bon March Madness.
Merci. Le moins d'upset possible.
juste des numéros 1.
Yes!
au retour de la pause, c'est David Haussmann qui vient nous parler pour mettre la table en vue du March Madness féminin. OK, deuxième segment, on part cette émission, mais en fait, cette partie de l'émission qui partera désormais sur la NCAA, sur le March Madness, parce que oui, c'est commencé, le basketball universitaire, le tournoi le plus important, c'est en marche. On commence avec la division féminine, c'est David Haussmann qui est là, vous le connaissez, hein, c'est notre collaborateur basketball féminin, il est là aujourd'hui pour mettre la table, en fait, en vue de ce tournoi féminin. Bon matin, David, comment ça va?
Bon matin, William, je vais bien, très content, très excité. Enfin, le March Madness. Tous les fans de basket, si tu es un fan de basket puis tu n'aimes pas le March Madness, je ne sais pas si tu es un fan de basket. Fait que non, je suis excité, j'ai hâte d'en parler.
OK. Écoute, on a quatre sections. Je rappelle rapidement le concept classé 1 à 16, donc 16 équipes dans chacune des sections, finalement, qui ont un classement en fonction de leur puissance, en fonction de leurs résultats durant la saison, s'affrontent dans un tournoi à élimination simple et avancent progressivement jusqu'au championnat qui aura lieu le 2 avril. Donc, c'est séparé pas en conférence, là, pour ce qui est des femmes, parce que, bon, les hommes, c'est des sections un peu géographiques. Nous, c'est les endroits dans lesquels ça se déroule. Donc, Greenville 1, Greenville 2, et après Seattle 3, Seattle 4. Donc, c'est comme ça que c'est divisé pour les femmes. Et on va regarder un petit peu quelles sont les équipes à surveiller dans chacune de ces divisions-là. Et puis, qui pourrait peut-être causer une surprise aussi? Qu'est-ce qu'il faut surveiller, finalement? C'est quoi les histoires à regarder dans chaque section? On va y aller chronologiquement, hein, comme le tableau est... Ben, pas chronologiquement, mais plutôt comme le tableau est organisé, hein, selon l'image. Donc, Greenville 1, dis-moi qu'est-ce qui se passe là-bas, David? Bon, quand on regarde les classements en puissance, c'est South Carolina qui a la première place. On a également Maryland, deuxième, Notre-Dame, troisième. Qui pourrait s'en sortir là, de cette section?
En fait, comme tu dis, William, on va commencer en disant South Carolina premier, qui vont rester premier, qui vont terminer premier, national champion. Mais on va revenir sur ça après.
OK, OK. Mais... 2 minutes et demie avec le début de la chronique, on sait déjà ton punch. Oh, génial.
South Carolina dans le Greenville 1, sincèrement, je pense qu'ils vont extrêmement dominer. Quand je regarde, en fait, ils vont déjà au second round, ils ont déjà passé la première ronde avec une victoire écrasante encore une fois. Mais quand je regarde comment l'équipe est composée, on réalise que Alia Boston a terminé avec peu de points, avec, si je ne me trompe pas, avec 7 points, 10 points gros max, mais son équipe gagne par 30. Fait qu'on réalise que South Carolina, c'est devenu plus grand qu'Alia Boston. T'as des Zaya Cook, t'as toute la Laetitia Ami here. Fait que toutes ces filles-là ont contribué. 12 filles ont scoré minimalement un panier dans la dernière partie. Et les deux autres qui n'ont pas scoré ont joué moins de 3 minutes. Donc, ça veut dire vraiment que donne peut-être une minute de plus à ces deux autres-là, puis elles scorent. Fait que vraiment, c'est le genre d'équipe que South Carolina est devenue, une équipe très, très, très dangereuse de 1 à 14. Donc, c'est pourquoi moi, je dis que dans la section Greenville 1, ça va être très difficile. Mais quand même, on doit donner le respect à Notre-Dame. Notre-Dame, les Fighting Irish, qui ont une très belle saison, qui sont très bien rodés. On a notre Québécoise, Cassonne Prosper, qui nous rend fière. Super partie, elle a joué 27 minutes en première ronde. 6 points, 10 rebonds, très bien pour une fille qui vient tout juste d'arriver. Il y a Maddie Westbelt que j'ai eu la chance de voir en vrai, extrêmement dominant dans la partie. 20,5 aides, 3 rebonds. Mais par contre, pourquoi je donne... C'est un peu difficile peut-être pour Notre-Dame. Olivia Miles est blessée pour tout le tournoi. Donc, Olivia Miles, ceux qui ne la connaissent pas, qui est la leader de l'équipe Notre-Dame, qui est la, selon moi la meilleure joueuse, qui malheureusement ne fera pas partie du March Madness. Donc, je pense que ça vient vraiment de compliquer les choses. Lorsqu'elle s'est blessée, ils ont joué contre Louisville et ils ont perdu par 30. Donc, ça vous dit l'impact que Olivia Miles a pour son équipe. Après ça, j'ai Maryland, comme tu as dit, William, qui sont deuxième dans la région. Maryland, il y a Diamond Miller, qu'on a parlé d'elle souvent l'année passée aussi. Mm-hmm. Écoute, toujours aussi intense, toujours aussi solide. Ils ont fait 93 points dans leur, au premier round, en première ronde. Donc, c'est comme l'année passée quand on en parlait, c'est une équipe où tu avais 5 filles à plus de 10 points. Donc, c'est ce genre d'équipe où que tout le monde peut scorer. Une va faire 12, l'autre va faire 20, etc. Donc, c'est le genre d'équipe extrêmement difficile à surveiller. Et pour finir, je donne un peu d'amour à Arizona qui, quand même, mérite ce respect-là qu'ils ont prouvé dans les dernières années au niveau féminin et même masculin avec notre très cher Bénédicte Mathurin, qu'ils ont prouvé qu'ils méritent vraiment d'être respectés à ce niveau-là. Shayna Pellington, une Canadienne qui dirige la troupe. Donc, ce sont mes analyses pour vraiment le Greenville.
Et si dans cette section-là, South Carolina, ça vous dit quelque chose, là, je m'adresse aux auditeurs, ben c'est parce que ce sont les champions nationaux de l'an dernier. Mmh. Ils ont remporté la finale contre UConn par 15 points l'an dernier. Donc, champion national, et là, ton choix, c'est encore eux autres, pour répéter. Donc, on est allé avec l'option sécuritaire. J'imagine que le groupe est assez similaire à ce qu'il y avait l'an dernier.
Ben oui, le groupe est très similaire. Ils n'ont pas perdu beaucoup de filles. Cette année, ils ont quand même 4 à 5 seniors qui vont graduer. Mais quand tu regardes la composition de l'équipe, le système de l'équipe, les premières années de South Carolina et les deuxièmes années de South Carolina sont toutes des filles quasiment à 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 4. T'sais, ça fait en sorte que même l'année prochaine, et en plus cette année, ils ont signé, ils ont comme une des meilleures classes de recrutement, encore une fois de plus. Donc, je pense qu'on peut s'attendre du pareil au même. Est-ce qu'on peut remplacer une Aliyah Boston, une Zaya Cook? J'imagine que c'est très difficile de faire, mais quand tu rajoutes d'autres bonnes joueuses aussi, quand il y a un système en place, ça fait du sens.
Absolument. Donc, OK, ça c'est pour la section Greenville 1. Restons dans le Greenville, allons plutôt dans le 2. Je vais présenter comme je l'ai fait pour la dernière. Indiana obtient le seed numéro 1, donc c'est un peu comme ça qu'on les classe. Ensuite, Utah 2 et LSU 3e. Est-ce que, bon, le top 3 nous donnera l'équipe qui ira en Final Four ou bien, bon, il y a quelque chose, il y a une surprise qui pourrait se dérouler ici?
Sincèrement, c'est sûr que Indiana, ils ont eu toute une saison, ainsi que Utah. Deux équipes que on connaît bien, notamment Utah, nous ici au Québec, à cause d'Andrea Torres principalement, qui a joué Moran, qui a joué là-bas, et d'autres jeux aussi. Mais Andrea, d'ailleurs, je la disais un petit coucou parce que je sais qu'elle va entendre ça, elle va être contente. Mais vraiment, Utah, il joue toute une saison. Donc, je pense qu'on ne devrait pas les retirer de la course. Même chose pour Indiana, avec Keandra Brown, qui a vraiment subi beaucoup de blessures durant sa carrière, qui enfin pourra vraiment goûter au March Madness. Elle a déjà été dans les 3 dernières années, mais elle n'a pas pu jouer en raison de blessures et des trucs comme ça. Donc maintenant, elle pourra jouer. Par contre, on en a parlé à BBM, excusez-moi, on en a parlé, puis dans le fond, Angel Reese à LSU, là, elle veut pas laisser de chance à personne. À la partie de la première ronde, elle finit avec 34 points, 15 rebonds. Donc, c'est du début de l'année, LSU a une saison incroyable. Angel Reese, vraiment, elle est incroyable, elle est indomptable. Donc, pour être honnête, pour moi, LSU va sortir du Greenville 2. Ce serait vraiment une excellente histoire aussi qu'il puisse sortir de la LSU avec Angel Reese qui a transféré et qui maintenant amènerait son équipe à ce niveau-là. Pour moi, ce serait incroyable.
Non, intéressant. Donc, pour le début de ce tableau, on compte South Carolina et LSU comme semi-finalistes. Si on se dirige plutôt vers Seattle trois maintenant, donc on va les faire en ordre. Je te présente de la même façon. Virginia Tech sont les numéros un. Ensuite de ça, on a UConn, qui sont les finalistes de l'an dernier. Et puis, le numéro 3, eh bien, c'est Ohio State.
En fait, par rapport à Seattle 3, même moi, je me suis posé beaucoup de questions. J'étais un peu... Parce que tu connais mon amour pour UConn. Donc, j'étais un peu dans une position où je me posais des questions. Mais très honnêtement, je les ai vus jouer cette année. Et malheureusement pour coach Geno Auriemma, les dernières années étaient des années très difficiles en termes de blessures, de joueuses qui ne sont pas à 100% et tout ça. Puis quand tu as des joueuses comme AZ Fudd, Paige Bockers, tout ça, qui ne sont pas à 100%, c'est sûr que ça impacte énormément tes rotations et tout ça. Mais on a quand même Alia Edward, notre Canadienne, qui nous rend extrêmement fiers. Elle est super dominante. Sincèrement, elle est à un niveau élite en ce moment. Elle est vraiment projetée pour aller en WNBA. C'est à ce point-là qu'elle est forte. Il y a AZ Fudd qui est là. Il y a Nyka Mule qui est une point guard incroyable. Donc, sur ces trois filles-là, si UConn est capable de bâtir quelque chose de solide, prendre un momentum, je pense sincèrement qu'ils vont être très durs à arrêter. Virginia Tech, il y a une seule chose que je ne comprends pas, je vais être honnête, c'est que Ashley Owusu ne joue pas. Ça, c'est le storyline qui fait beaucoup parler en ce moment, que Ashley Owusu, qui était, si vous vous souvenez d'elle, qui était à Maryland, très dominante avec Diamond Miller, qui a décidé de transférer à Virginia Tech. Oui, ils ont fini première, donc, donc on n'a rien à dire comme elles sont premières.
C'est ça.
Mais en même temps, elle a passé du starting line-up, elle s'est blessée, elle a passé à off the bench, elle a passé à ne pas jouer du tout. Dans le tournoi SEC, elle n'a même pas joué du tout. Ça reste incompréhensible, on se pose des questions. Moi, je pense que Virginia Tech va être dangereuse, mais j'ai l'impression que s'ils rajoutent Ashley Owusu, ils passent de niveau dangereuse à vraiment OK. Ils peuvent, selon moi, ils peuvent vraiment sortir de l'eau. Sinon, pour terminer, moi, je donne vraiment mon vote à Tennessee. Tennessee, qui sont une équipe qui joue très dur, qui sont dans un momentum, qui sont très tough. Il y a la dernière année, Jordan Hartson, qui est à du 16 points par match, 7 rebonds. C'est sa dernière année. Elle est motivée. Elles ont eu une très belle fin de saison. Donc, je crois que la surprise du Seattle 3 sera Tennessee.
OK, intéressant. Alors, c'est bon d'en avoir au moins une là, pour ajouter du piquant à son bracket. C'est question de changer de « Ah, ben je mets tous les numéros 1 ». Bon, ça, c'est quasiment trop facile de faire ça.
Ça, c'est des choix trop sûrs.
C'est ça. Donc, faut avoir un peu de fun avec nos prédictions parfois. Et sur ça, on va se diriger vers la quatrième conférence, donc qui est Seattle 4. Je vous fais le classique top 3. Donc, Stanford, qui est numéro 1, qui a dominé en première ronde.
Oh oui.
Ensuite, on a Iowa, qui a aussi dominé en première ronde. Et Duke, qui n'a pas encore joué au moment où on enregistre ceci.
Sincèrement, tu sais que je regarde toujours transparent avec toi, oui. Duke et Louisville, je pense que ce sont deux équipes que j'aime, simplement. J'aime le style. J'ai une très belle relation avec coach Jeff de Louisville, donc c'est un bon ami à moi. Donc, j'ai comme l'impression que c'est plus ça qui fait en sorte que je suis un peu biaisé.
Ah,
mais par contre...
Les biais personnels.
Ouais, exactement. Mais Ellie Van Leet, que toi et moi, on parle souvent d'elle, on a été un petit peu déçus ces dernières années qu'on en parlait. Mais là, elle est intense, elle travaille fort. Donc, Louisville sont une vraie menace. Sincèrement, c'est une vraie menace. C'est le genre d'équipe que même si on ne la mettrait pas dans nos top, si tu penses les prendre à la légère, elles vont gagner à ce point-là. Et t'as Duke, qui avec le transfert de Taylor Celeste, puis de notre Canadienne Cheyenne Day Wilson, qui aussi, je pense qu'à la grande surprise de plusieurs, on n'avait pas vraiment considéré Duke qui serait une équipe top 3 et tout ça. Je pense que pour nous, Duke, on connaît le Duke men's basketball, les hommes, mais au niveau féminin, bon, c'est juste bien. Mais pour venir à l'équipe, avant de parler de notre joueuse préférée à toi et moi, on va parler de Stanford qui, passe à la prochaine ronde. Ils ont déjà gagné. Ellie Jones, super performance, 17 points. Mais, et notre joueuse de 6 pieds 7, Francesca Bellaby, 12 points, 10 rebonds, très belle performance. Mais dans leur victoire, ce qui m'a le plus impressionné, c'était l'absence de Cameron Prick. Elle n'était même pas là et ils ont dominé. Donc, clairement, je me dis, si cette joueuse-là n'est pas là et ils dominent, quand elle revient, parce qu'elle n'est pas blessée, en fait, c'est juste qu'elle avait un malaise. Donc, ils disent que c'est peut-être un rhume ou quelque chose comme ça. Donc, elle va revenir, mais quand elle va revenir, elle revient avec des statistiques de 15 points par match, 10 rebonds par match, 4 blocs par match, 2 passes décisives. Donc, elle revient avec un vrai bagage. Donc, je me dis que Stanford, on le sait, sont extrêmement dangereux, sont quasiment même favoris pour plusieurs pour gagner le championnat. Mais, on ne peut pas sous-estimer Caitlin Clark. Caitlin Clark qui, hier, au premier round, à la première ronde, gagne par 52 points. 95-43, elle fait 26 points, 12 rebonds, 7 passes encore. Écoute, on le dit depuis qu'on a commencé à parler d'elle à la radio, elle a des statistiques de jeux vidéo. Donc,
J'allais dire, ce que tu décris, ça, c'est moi quand je joue My Career sur NBA.
Exactement, c'est incroyable. Et sincèrement, ayant suivi quand même de très près sa carrière, cette année, elle vient, comme on dit, j'ai utilisé un terme anglais, mais she's coming with a vengeance. Elle vient avec vraiment, tu le vois comme un jour, elle a expérimenté la défaite, ça a été dur pour elle. Donc, je pense vraiment que Iowa vont venir avec vraiment une énergie différente. Oui, j'aimerais donner mon vote à Stanford, mais pour cette année, moi, je vais le donner à Iowa. Je vais donner mon vote à Iowa qui va sortir de Seattle 4.
Donc David, Caitlin Clark. Ouais. Oui, okay, c'est ça, Caitlin Clark. David, ton Final Four, ta finale, s'il te plaît, avant de te laisser y aller.
Donc, mon Final Four, c'est South Carolina contre Iowa et c'est LSU contre Tennessee. Et ensuite, mon National Championship, je dirais que c'est South Carolina contre Iowa et les championnes South Carolina.
Je te souhaite, David, parce que là, on enregistre ceci le samedi, qu'aucune de ces équipes ne se fasse éliminer en première ronde. Ce serait pas cool.
Généralement, j'ai toujours des bonnes prédictions, des bons brackets. J'espère que j'ai gardé mon bon pourcentage.
Je te le souhaite. Moi, dans mon bracket masculin, je tiens à dire mon Final Four est toujours tous en vie. Hein, je n'ai pas été pris par les surprises. David, merci beaucoup pour ton analyse, évidemment. Là, tu as un beau projet là, qui s'en vient côté basket. Là.
Ben oui, écoute, comme on dit en anglais, you heard it first. Merci à toi de nous donner cette plateforme. Donc, étant maintenant le responsable du programme de basketball au Collège Boisbriand, on a décidé d'amener ça à un autre niveau. Donc, on fait un camp d'entraînement en collaboration avec IMG Academy, la prestigieuse académie à Bradenton, en Floride, où ce que notre géant, M. Rioux, est de 7 pieds 5, c'est là qu'il est. Donc, vraiment, avec les jeunes juvéniles, masculins et féminins, on se dirige au mois d'avril à IMG Academy pour un camp d'entraînement. Donc, on va vraiment être là-bas, logés, nourris. On va s'entraîner avec les meilleurs entraîneurs, je dirais, au monde. Vraiment, des cliniques, tout ça, jouer des parties hors concours, etc. Donc, ça va être vraiment un package total, entraîné au niveau physique par les entraîneurs aussi physiques et cardiovasculaires d'IMG. Donc, vraiment, les jeunes vont vivre une expérience incroyable que moi-même, j'ai pas vécu ou que plusieurs aimeraient vivre. Donc, ils vont vivre une expérience basketball incroyable au mois d'avril.
Très, 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 très cool, David, d'entendre ça. Je suis bien content pour toi. Donc, je te souhaite une belle aventure puis également un très, très bon March Madness. On va se reparler, je le souhaite, dans les prochaines semaines pour continuer d'analyser comment ça se passe. Donc, merci beaucoup. C'était David Haussmann, notre chroniqueur basketball féminin. Au retour de la pause, on parle du March Madness, mais masculin, avec Manuel Villeneuve. Mesdames et messieurs, on termine cette émission Alley Hoop 360 du mois de mars. Donc, mi-mars, vous savez ce que ça signifie. C'est le March Madness, le tournoi le plus important de basketball universitaire américain. À chaque année, c'est une classique. On aime ça en parler, on aime ça suivre, on aime ça voir les équipes qui se rendent loin et qui ne devaient pas. On aime ça voir les upsets, on aime ça analyser qui devrait se rendre loin. On aime ça créer des brackets avec ses amis dans un groupe et comparer nos résultats, nos prédictions. Bref, c'est un moment particulièrement animé, excitant, entraînant pour les partisans de basketball. Emmanuel Villeneuve qui connaît très bien le basket collégial et les espoirs donc pour le repêchage de la NBA. Il est là pour nous en parler aujourd'hui. Manu, comment ça va?
Tu me connais, tu sais, à ce temps-ci de l'année, ça va à merveille.
Oui, absolument. Ben, écoute, j'en doute aucunement. Je pense que la description que j'ai faite d'entrée de jeu te correspond en tout point. Et je pense qu'on peut même faire x5 par après pour ton amour pour le basket universitaire. Écoute, on a préparé une analyse sur ce qui s'en vient pour le tournoi du March Madness. Et là, je tiens à faire un petit... Pas un disclaimer, mais on vous informe que ce segment est pré-enregistré. Donc, vendredi, au moment où on fait ça, diffusé dimanche, donc il va y avoir des résultats qui sont tombés, qu'on n'a pas encore. Donc, n'étonnez-vous pas si on parle d'une certaine équipe, puis se fait éliminer samedi, puis nous autres, on ne le sait pas. Donc, faites attention à ça. Gardez ça en tête là, quand
de
on parle
façon,
de ça.
De toute façon, dans le March Madness, tout se passe comme prévu, donc ça devrait bien vieillir.
C'est ça, exactement. Écoute, donc, 4 sections. Je rappelle le format du tournoi. 64 équipes divisées donc en 4 sections. Tout le monde est classé de 1 à 16, donc en fonction... techniquement de la puissance de ces équipes-là. Et on va analyser, section par section, conférence par conférence, plutôt, comment ça se déroule, qui devrait être les favoris. Commençons par celle du Sud, où Alabama est classé premier, Manuel.
Ouais, c'est une section intéressante parce que, à mon avis, c'est vraiment ouvert. Alabama sont de loin les favoris. La seule équipe avec qui je considère qu'ils pouvaient rivaliser, c'était Arizona, puis ils ont été surpris par Princeton hier. Les surprises dans le March Madness sont pas tous pareilles. Souvent, c'est parce que l'équipe sous-estimée a bien performé. Dans le cas d'Arizona, je pense que c'est plus une performance décevante de leur part. Donc, Alabama doivent s'en réjouir parce que le chemin est assez grand ouvert pour eux. Ils vont affronter une équipe de Furman qui a été assez étonnante hier contre Virginia. On s'en est parlé un peu avant d'enregistrer. Furman ont profité du fait que Virginia sont une équipe qui ne marque pas beaucoup à 3 points, qui marque principalement proche du panier. Et bien évidemment, on l'a tous vu, la grosse erreur de Virginia en fin de match qui a permis à Furman de compléter la surprise. Donc, c'est un chemin assez intéressant pour Alabama. Le seul petit piège pour moi, c'est Creighton. Creighton, personnellement, sur mon bracket, je les ai jusqu'au Elite 8 parce que c'est la même équipe qui, l'an dernier, a failli sortir Kansas au deuxième tour. Kansas qui, ensuite, ont continué leur chemin vers un championnat, mais c'était Creighton, l'équipe qui leur avait donné le plus de misère dans ce tournoi-là. Et eux, ils ramènent la même équipe cette année, sauf qu'ils sont plus en santé que l'an dernier. Tous les joueurs clés sont en santé, ils sont là, ils vont être présents. Donc, je pense que c'est le petit piège qui pourrait peut-être donner de la misère à Alabama, mais j'ai quand même le Crimson Tide qui se rend jusqu'au Final Four.
Et précisons que Creighton, classé numéro 6, hein, donc c'est pas nécessairement le club que si tu te bases uniquement sur les numéros, tu regardes pas trop les chiffres ou tu connais pas trop l'historique de la saison, tu doutes pas nécessairement qu'il va se rendre jusque-là. Donc, intéressant... pour Creighton, ils affrontent NC State première ronde. Donc, on verra bien. Mais s'ils perdent en première ronde, on va mal paraître. Mais écoute.
Ouais. Ben, puis même au deuxième tour, il y aura un affrontement difficile, probablement contre Baylor. Ouais. Sauf que moi, Baylor, je ne crois pas vraiment à eux parce que leur défense, c'est vraiment pas ce qu'on a connu des dernières années de Baylor. Là. Faut que tu joues de la défense dans le March Madness.
C'est plus les champions nationaux d'il y a 2 ans, Baylor. OK, donc. Arizona s'est tombé. Baylor, numéro 3, sont pas. Sont, comme tu le dis, tu n'as pas nécessairement confiance en eux. Et Virginia sont tombés contre Furman au premier tour. D'ailleurs, ça a fait échouer à peu près 90% des brackets ça, dès le début. Donc, ça s'est aminci assez rapidement. Il en reste déjà moins de 1000 là, qui sont parfaites à l'heure actuelle.
Eh oui.
Et donc, pour ce qui est de la... D'ailleurs, toi, avant de passer à la conférence de l'Est, ça va comment la tienne?
Mon bracket, pour l'instant, mes équipes principales sont encore en vie. Il y a Houston là, qui m'ont fait un petit peu peur hier avec la blessure de Marcus Sasser. On va en parler tantôt quand on va être rendu à la section Midwest. Mm-hmm. Pour l'instant, ça va pas trop mal. La seule équipe que j'avais avancée, dans le fond, jusqu'au Sweet 16 qui ont été éliminés, c'est Arizona. Pour le reste, comme j'ai mentionné, Furman qui ont surpris Virginia, personnellement, ça ne m'a pas tant surpris parce que justement, comme j'ai dit, Virginia, une équipe qui ne tire pas beaucoup à 3 points, quand on arrive dans le March Madness, ça fait mal.
Oui, absolument. Donc, passons à la conférence de l'Est maintenant. Il y a Purdue qui est classé numéro 1, mais il y a des noms qu'on connaît bien, hein? Duke, Kentucky, bon, c'est ça, c'est dans la même conférence. Il y a Marquette qui est numéro 2. Si tu nous démêles ça, là, à qui doit-on s'attendre au Elite 8, voire Final Four?
Ça, c'est super intéressant. La section Est, ça pourrait être le chaos. C'est vraiment très difficile à prédire. Honnêtement, c'est pas la section que j'ai le plus aimé faire dans mon bracket. Je changeais d'idée sans arrêt. Purdue, bien évidemment, sont les favoris, mais on connaît tous le March Madness. On sait tous que ça arrive jamais. Je pense que c'est arrivé une fois dans l'histoire que les quatre first seeds se sont tous rendus au Final Four. Donc, on essaie tous de trouver ça va être lequel le first seed qui va sortir le plus tôt. Puis la plupart des gens ont perdu. Pourquoi? Ben, premièrement, parce qu'ils se fient beaucoup sur leur joueur vedette, Zach Edey, le centre canadien de 7 pieds 4 pouces. Mais Edey, c'est un excellent joueur, sauf que c'est un joueur qui amasse beaucoup de fautes. Ces matchs dépendent beaucoup de l'arbitrage. Si l'arbitre commence en début de match, puis il décide qu'il ne tolère pas quand ça se pousse dans la clé, Edey peut rapidement se ramasser avec 3 fautes. Puis on le sait, dans le basketball universitaire, c'est pas 6 fautes comme dans la NBA, c'est 5 et c'est terminé pour toi. Donc, si Zach Edey a 3 fautes à la mi-temps, ça devient très compliqué pour Purdue parce qu'eux se fient beaucoup sur lui. Je pense qu'ils vont être corrects dans les premiers tours, là, même si Edey est un peu en foul trouble, comme on appelle. Ils peuvent réussir à passer à travers de FDU de Memphis. Sauf que c'est ensuite, là, leur chemin va se corser à partir du Sweet 16 parce que là, il y a des bonnes chances qu'on affronte Duke, une équipe qui a connu une fin de saison incroyable. Même si on passe à travers Duke, ensuite, on aurait probablement Kentucky ou Marquette. Selon moi, Marquette, là, mais on va y revenir. Donc, c'est vraiment pas un chemin facile pour Purdue. Là.
Oui, donc ça va être à surveiller de ce côté-là. Personnellement, moi, j'ai Duke et Marquette. En Elite 8, par la suite Marquette qui passe Final Four contre Alabama. Donc moi, c'est du côté gauche de mon bracket, c'est à ça que ça ressemble. Et si on s'en va en haut à droite, la section Midwest,
Avant de continuer, je voulais dire, moi aussi j'ai la même chose de ce côté-là, parce que Duke, eux, ils ont terminé la saison vraiment en feu, mais je pense que contre Marquette, c'est une équipe plus complète. Puis je voulais en parler avant d'avancer parce que Marquette ont un Québécois, Olivier Maxence Prosper, qui cette année connaît vraiment sa meilleure saison dans la NCAA. C'est sa troisième année, deuxième qui est à Marquette. Il l'a transféré de Clemson. Cette année, il joue presque 30 minutes par match. Il marque environ 12-13 points par match de moyenne. Donc, il a un rôle assez important sur l'équipe de Marquette. Une équipe qui a une bonne profondeur, qui marque beaucoup de points, qui joue de la grosse défensive, une des meilleures équipes défensives du tournoi. Donc, ça va être à surveiller. Puis moi aussi, je pense que Marquette va se rendre au Final Four. On le souhaite pour au max.
Ben écoute, merci de ces précisions. Je ne voulais pas te couper l'herbe sous le pied en passant déjà à la prochaine section. Mais là, si tu le permets, on va le faire. C'est là que Houston est numéro 1. D'ailleurs, je pense si on regarde là, les mesures d'ESPN, pas mal l'équipe la mieux classée en termes de statistiques. Par contre, bon, il y a un absent quand même notoire. Texas est numéro 2 là-dedans avec Xavier et Indiana qui complètent là, le top 4.
Oui. Ça, c'est la région vraiment des guards. C'est vraiment, les équipes ont toutes des bons backcourts. Ben, pas tous, mais la plupart. Sauf que Houston, l'équipe favorite, ont perdu leur meilleur guard. Marcus Sasser, qui est un joueur de quatrième année, qui est un joueur vraiment important pour Houston, s'est blessé dans le tournoi de conférence et ça avait fait mal à Houston. Ils s'étaient inclinés contre Memphis. On n'avait pas gagné leur conférence malgré une saison de 31 victoires et 3 défaites. Là, Marcus Sasser était supposé être de retour pour le March Madness, mais hier, dans le match contre Northern Kentucky, il a encore quitté la rencontre. On parle d'une blessure à l'aine qui semble guérir difficilement. Ça complique vraiment les choses pour Houston.
Oui, ben écoute, moi, c'est une mauvaise nouvelle pour moi parce que j'ai choisi Houston comme gagnant de ce tournoi cette année. Je ne suis pas certain que ça va arriver. En fait, tu mines ma confiance par rapport à ce que j'avais. Je ne suis plus aussi certain. Est-ce que tu penses que c'est réaliste de dire que Houston peut remporter le tournoi quand même ou je suis complètement dans le champ?
Ben, t'es pas complètement dans le champ parce que quand ils sont à pleine capacité, Houston était probablement la meilleure équipe cette saison. C'est entre eux et Alabama, mais ils sont beaucoup plus constants qu'Alabama. Moi, je pense pas qu'ils vont se rendre en finale. Moi, j'ai Texas qui sortirait de cette région, la région Midwest. Mais juste avant de se rendre au Texas, on aurait un possible match de Sweet 16 déjà difficile si on devait affronter Indiana. Indiana, qui sont une équipe qui a eu de la misère à trouver de la constance cette année, mais quand ils sont à leur meilleur, ils peuvent battre n'importe qui au pays avec le jeune joueur Jalen Hood-Chifino, qui va être un choix probablement de loterie dans le repêchage. Et même si on passait à travers d'Indiana, on aurait un possible match de Elite Eight contre Texas, que moi, c'est l'équipe que je favorise dans cette région. Texas, qui est une équipe qui se fie beaucoup sur trois gardes, donc c'est sûr que c'est pas l'équipe qui ont le plus de size, qui sont pas les plus gros. C'est peut-être que ça va leur faire mal à un certain point dans le tournoi, sauf qu'on a trois gardes super dynamiques qui peuvent tirer de partout sur le terrain. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le tournoi normalement. Un petit piège déjà au deuxième tour, on va affronter une équipe de Penn State qui est en feu depuis un mois, qui ont surpris Texas A&M hier. Penn State sont vraiment surprenants. Ils ont commencé leur bon travail dans le tournoi du Big Ten en battant Indiana, dont je viens juste de parler, et en donnant une bonne frousse à Purdue dans la finale du Big Ten. Ils ont perdu par 2 points seulement contre Purdue. Une équipe qui fait peur, Penn State, puis ils vont affronter Texas au deuxième tour dimanche.
Donc, dans cette conférence-là, là, qui est du Midwest, Manuel, est-ce que tu identifies là, d'autres écoles qui vont être intéressantes à suivre, outre que les favorites que tu viens de mentionner?
Comme j'ai dit, Indiana sont une équipe qui est à surveiller parce que s'ils jouent leur meilleur basket, ils sont épeurants. Sauf que moi, je ne les avais même pas avancés très loin parce qu'ils vont affronter une équipe de Miami qui est plus constante qu'eux. Je souhaite qu'Indiana soit leur meilleur parce que quand ils jouent bien, ils sont super intéressants. Mais on l'a vu toute l'année qu'ils manquent de constance et que leur défensive est un petit peu attaquable. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait un match un peu plus difficile et que ça signifie la fin. Fait que c'est ça, moi, j'ai vraiment Texas qui se rend jusque dans le Final Four, dans cette section-là.
Passons maintenant à la dernière de ces conférences, qui est celle de l'Ouest. Et donc, toi, tu baptises ça tout gentiment la conférence de la mort. Explique-nous pourquoi.
Oui, c'est vraiment une section super difficile. Pour ceux qui connaissent le site internet KenPom, qui est un gars qui fait des statistiques avancées, lui, il refait toujours son classement personnel différent de celui du comité de la NCAA, basé sur les statistiques avancées. Et dans la section Ouest, il y a 5 de ces 16 équipes-là qui sont dans le top 11 du site internet KenPom. C'est juste des statistiques avancées, ça ne veut pas dire que c'est 5 des 11 meilleures équipes au pays, mais c'est quand même vraiment digne d'intérêt. On parle ici de Kansas, on parle de Connecticut, UConn, UCLA, Gonzaga et St. Mary's. Puis honnêtement, c'est difficile de discuter KenPom là-dessus parce que c'est 5 excellentes équipes. Puis là-dedans, on ne parle même pas de Arkansas qui, eux, sont une équipe jeune qui, normalement, les équipes jeunes, c'est un petit peu difficile dans le March Madness, mais reste qu'on a deux joueurs en Anthony Black et Nick Smith qui vont être des choix de top 10 dans le repêchage de la NBA. Donc, tu sais, oui, c'est des jeunes joueurs, mais n'importe quand que tu as autant de talent dans ton équipe, c'est dangereux. Eric Musselman, l'entraîneur de Arkansas, une fiche de 7 victoires et 2 défaites lors de ses derniers March Madness. C'est vraiment un coach qui a du succès à ce temps-ci de l'année. Donc ça va être un match-up difficile pour Kansas au deuxième tour. Kansas qui sont les favoris de cette section. C'est vraiment super intéressant de ce côté-là. On en a parlé un petit peu avant d'enregistrer. J'aurais aimé que UCLA soit une des équipes que j'amenais loin dans mon bracket. Ouais. Malheureusement, UCLA ont perdu les services de Jalen Clark en fin de saison. Jalen Clark qui était le joueur défensif par excellence de la conférence Pacific 12, un joueur super important pour UCLA. Donc là, on se retrouve à faire confiance à nos deux gardes, Tiger Campbell et Jaime Jaquez, des gars qui sont à UCLA depuis, je pense qu'ils sont rendus à leur 14e année là-bas. Non, mais je fais des blagues, évidemment, mais on dirait qu'ils sont là depuis toujours. Ça va être ces deux gars-là qui vont devoir traîner UCLA plus loin, mais je pense que quand ils vont se frotter à Gonzaga, on aurait eu besoin de Jalen Clark pour battre Gonzaga. Tout ça pour dire que moi, je pense que malgré une section super difficile, je vois Kansas se rendre jusqu'au bout dans un parcours qui va être super difficile pour eux. Fait que c'est pas facile à prévoir.
Donc, ton Final Four en prévision là, du tournoi, on se rappelle que le Final Four, ça a lieu dans 2 semaines, donc ça a le temps de changer. C'est le 1er avril, ces deux rencontres-là. Par la suite, on a la finale qui se tiendra le 3 avril. À quoi ça ressemble ton carré d'as?
Donc, j'ai Alabama qui participerait à un premier Final Four dans leur histoire. En bas, j'ai Marquette avec Olivier et Maxence Prosper. Je leur souhaite vraiment. En haut, dans le Midwest, à droite, j'ai Texas qui causerait une surprise en sortant Houston puis en se rendant là. Et dans la section ouest, la section de la mort, j'ai Kansas qui réussirait à sortir de là contre toute attente. Ben, contre toute attente, ils sont quand même un numéro un, mais il y a beaucoup de
non,
gens
pas
qui
sans
pensent...
difficulté. Disons.
Exact, on va dire ça comme ça. Beaucoup d'embûches, mais je pense qu'ils vont en sortir. Ensuite, ben, je verrai une finale Alabama contre Kansas, première finale de l'histoire pour Alabama. Et ma prédiction pour le championnat, je pense que Kansas vont répéter ce qu'ils ont fait l'an dernier, back-to-back pour eux. C'est une équipe qui est tellement bien coachée, qui peut se fier sur plusieurs joueurs. Si leur joueur vedette Jalen Wilson connaît un match difficile, on a Grady Dick, qui est un excellent ailier, qui va être repêché top 10 probablement dans le prochain repêchage de la NBA. On a beaucoup de profondeur à Kansas, on est bien coaché, on sait ce que ça prend pour se rendre jusqu'au bout. Je pense que c'est une équipe qui peut répéter ça. Alors que de l'autre côté, Alabama, je considère qu'ils sont la meilleure équipe au pays, sauf qu'on a eu des performances vraiment difficiles au cours de l'année. Ça a été un peu up and down pour eux, que ce soit en raison de leurs problèmes en dehors du terrain ou pour des raisons basketball. On ne va pas s'attarder là-dessus, là, mais si vous voulez voir, vous pouvez googler Brandon Miller et savoir ce qui se passe à Alabama. Je ne pense pas qu'ils vont avoir le focus qu'il faut pour gagner un championnat.
Merci beaucoup pour toute cette analyse du March Madness. C'était Manuel Villeneuve qui travaille chez RDS, donc aux statistiques, qui s'intéresse beaucoup au basket universitaire de la NCAA, qui fait partie de la grande famille d'Alley-Oop 360 depuis très, très longtemps. Merci beaucoup, Manuel, d'avoir été là.
Merci à toi.
Et bon, je vais, avant de conclure, donner mes propres prédictions. Question d'être transparent et de pouvoir me vanter si jamais j'avais raison. j'ai Alabama Marquette comme finale, comme demi-finale du côté gauche. Et puis, j'ai Houston Gonzaga de l'autre côté. Gonzaga, c'est une tradition, je les mets tout le temps au moins Final Four. C'est comme ça, je me fous du reste de leur section. Je les mets automatiquement aussi loin parce que c'est une équipe que j'affectionne particulièrement. Houston, Alabama en finale avec Houston all the way pour moi. Je vais paraître nul si jamais ils s'inclinent en deuxième ronde en raison des blessures comme Manuel l'avait mentionné. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Sur ce, je remercie mes collaborateurs d'aujourd'hui, donc Manuel que vous venez d'entendre, mais également David Haussmann avec qui on a discuté en milieu d'émission et Charles Dubébret qui est là chaque semaine pour discuter de l'actualité NBA. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 15h, BPM Sport. D'ici là, c'est sur Alley-Oop 360, que ce soit le site web, Instagram, Twitter ou encore Facebook. Bonne semaine tout le monde.